OK, on va continuer notre série d'études qu'on a entreprises sur la providence. Ce soir, nous allons regarder la première partie de la providence et l'œuvre de Dieu, l'œuvre de la providence dans notre conversion. On avait vu dans la leçon précédente que c'était avant, dans notre leçon précédente, que qu'est-ce que Dieu a fait dans nos vies avant qu'on soit converti. Maintenant, on va regarder comment il a agi pour nous amener à la conversion. Alors, la providence est l'œuvre de notre conversion. Le Seigneur orchestre les occasions. Il orchestre aussi les moyens. Il orchestre aussi les instruments. Alors, on sait tous, si on vous ferait raconter votre histoire de comment vous êtes venu au Seigneur, on verrait que ça change d'un individu à l'autre. Bien sûr, il y a des choses qui sont constante, il y a toujours de la parole de Dieu là-dedans, mais des fois c'est un témoignage d'une personne, autre fois c'est une écriture ou un livre qui nous est prêté. Il y a toutes sortes de moyens que le Seigneur a utilisés pour nous amener à comprendre notre perdition et à nous présenter la personne de Christ, la glorieuse personne de Christ. Alors, dans le premier sermon, on avait étudié que le décret de Dieu dans l'éternité, c'était à son plan. Dieu, dans l'éternité, il avait un plan pour toutes les sociétés, tous les pays, tous les individus également. Puis que la providence, dans le fond, c'est que l'exécution et le déroulement du plan qu'il y avait décidé dans toute l'éternité. Donc le déroulement, bien entendu, dans l'espace et dans le temps, parce que les choses ne se passent pas toutes en même place et ne se passent pas toutes en même temps. Il y a eu, à partir du 1er siècle, à venir jusqu'au 21e siècle, les choses se sont produites. Et c'est les individus ont été sont venus au Seigneur d'une façon différente. Par exemple, quand on regarde la vie de Charles Spurgeon, son grand-père était pasteur, lui était pasteur, son père était pasteur, puis à 16 ans, il connaissait les Écritures. Il dit dans sa biographie que il aurait pu parler avec des pasteurs expérimentés de doctrines comme l'élection, la réprobation, des affaires, c'est des affaires assez difficiles. J'ai tellement entendu de conversations entre mon père et des gens qui venaient chez eux qu'à 16 ans, du point de vue des connaissances théologiques, il y en avait beaucoup. Mais dans son cœur, il filait mal, il allait pas bien. Puis à un moment donné, il s'est promené dans Londres un dimanche matin. Il est rentré dans une petite église toute petite. Et il neigeait, puis il est rentré dans l'église, puis ça allait donner drôlement parce que le dimanche qui est allé à l'église, le pasteur n'était pas là, puis c'était un diacre qui prêchait, puis c'était pas une personne qui était particulièrement douée pour la prédication, il l'écoutait. Et là, après avoir prêché un bout de temps, il a regardé Charles Spurgeon, puis il a fait Et vous, jeune homme? Il a vu qu'il était à nouveau dans l'assemblée. C'était pas une grosse assemblée, c'était tout petit. Il peut passer peut-être à peu près ici, là. Puis, à fin de compte, il dit, regarde à la croix, parce que le texte, c'était comme un texte par rapport à la croix. Et il était sauvé là. Alors, on voit les moyens que le Seigneur peut prendre. Il avait eu des bibles dans sa maison, des conversations, des témoignages. Et c'est pas ça. Le Seigneur s'est servi de cela. Et il y a plein d'exemples comme ça qu'on pourrait prendre dans notre histoire, nos propres histoires, et qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de plein d'hommes aussi et plein de femmes. On a chacun notre façon par laquelle Dieu est venu nous rencontrer, nous parler. Dans la deuxième leçon, on avait vu comment Dieu supervise et intervient avec une sagesse infinie dans la vie de ses élus, à la fois collectivement et individuellement. Puis on avait vu que cette providence-là est universelle, il n'y a pas un qui échappe, que ce soit une personne qui appartient au Seigneur ou non. Le Seigneur est au contrôle de l'ensemble des circonstances et que cette providence-là, elle est efficace, bénéfique, encourageante et révélatrice du caractère de Dieu. Le Seigneur est le chef-d'œuvre pour diriger le merveilleux concert des circonstances de nos vies. Ça, on a tendance à l'oublier. C'est comme vraiment la vie, nos vies personnelles, c'est comme si le Seigneur est le chef d'orchestre et toutes les circonstances qu'il se sert, donc qu'il utilise dans nos propres vies, ont pour but, soit avant notre salut, soit de nous emmener dans un état où on est réceptif à la grâce, où, après notre salut, pour nous faire ressembler davantage à Jésus-Christ. Et parfois, les moyens qu'il utilise nous semblent plus que bizarres. Pourquoi il m'envoie ça aujourd'hui? Pourquoi il m'envoie ça là, maintenant? Mais le Seigneur, dans sa grande sagesse, il sait ce qu'il fait. Il faut lui faire confiance. Alors, on se doit de se souvenir, comme on avait vu dans notre deuxième leçon. Dans la deuxième leçon, on avait vu que le Seigneur nous encourageait à consigner par écrit les miséricordes de Dieu dans nos vies, à se souvenir des choses qu'il a faites de façon constante dans nos vies. C'est une bonne chose que quelqu'un ouvrirait un petit cahier là, chez eux, puis de noter quand tu sens que le Seigneur a fait quelque chose de particulier pour toi, de le noter. Puis de temps en temps, quelqu'un prend des petits moments de découragement. Tu prends ton petit livre, puis tu le relis, c'est bon pour... Dans la troisième leçon, on avait regardé que les providences de Dieu dans nos vies commençaient très tôt, dans l'éternité, dès le sein maternel, et les circonstances particulières que le Seigneur a permis qu'elles arrivent dans nos vies, dans notre naissance, où on est venu au monde, dans quel pays, dans quel siècle, quelle sorte d'éducation on a reçue. Et toutes ces choses-là, Dieu nous a guidés dans le choix même de nos propres emplois dans nos vies. Et dans ce quatrième sermon-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la providence de Dieu à notre égard, qu'elle brille de ses feux les plus éclatants. Quand on regarde, et les plus glorieux, parce que absolument rien sur cette terre ne peut égaler la sagesse et la bonté du Seigneur dans la manière dont il a orchestré les occasions, les moyens et les instruments de notre conversion et de notre salut. Parfois, c'est bon de s'arrêter puis d'essayer de réfléchir à toutes les circonstances. Moi, que je me souviens très bien où j'étais en 1919, dans quel état d'esprit j'étais, il fallait que je sois dans cet état d'esprit-là pour que je sois disposé à recevoir, à lire et à être ouvert à ce que le Seigneur disait. Avant, ça ne va pas marcher. Le Seigneur sait choisir ses moments. Il prépare ta vie pour ce jour que lui a décidé. Alors, bien que nous puissions admirer l'infinie et admirable habileté de Dieu quant à la manière dont il nous a tissés dès le sein de notre mère, quant à la tendresse dont il nous a témoigné dans les circonstances de notre naissance, de notre éducation et des innombrables miséricordes qu'il nous a témoignées tout au long de notre vie, s'il ne nous aurait pas accordé la conversion et la nouvelle naissance, tout cela nous paraîtrait bien peu significatif. Bien sûr, si on n'avait pas le salut dans nos vies, peu importe ce qu'il nous a renvoyé, qu'on vienne riche, qu'on ait ici, on a eu ça n'aurait pas eu grand sens. Ça a un sens dans le sens qu'on voit que le Seigneur s'est servi de toutes ces choses-là pour nous emmener à un point précis, à une compréhension. Alors, notre conversion, c'est la providence la plus généreuse et la plus insondable que Dieu peut accorder à un être humain. C'est très certainement et de très loin, infiniment loin même, je dirais, la miséricorde envers nous pour laquelle nous lui sommes le plus redevables. Le Seigneur a eu bien des miséricordes avant notre salut, mais la grande miséricorde, c'est définitivement le fait qu'il nous a accordé la compréhension, il nous a ouvert le cœur, il nous a régénérés. Si nos cœurs ne sont pas profondément émus et reconnaissants envers le Seigneur pour cette providence, c'est que nous sommes bien inconscients et bien ingrats, bien entendu. Alors, si on va regarder le premier point ce soir, on va regarder l'orchestration de la providence dans les occasions, dans les moyens et les instruments de notre conversion. Alors, on va avancer là-dedans, ça va prendre fort probablement deux leçons. Alors, quand on examine les moyens utilisés par le Seigneur pour amener les âmes de ses élus à la conversion, il est inévitable que nos esprits s'émerveillent et se courbent devant la grandeur, la bonté et la miséricorde de notre grand et glorieux Dieu. Quand on lit, par exemple, dans Éphésiens, chapitre 3, les versets 8 à 11, où on nous parle de la sagesse infiniment variée. Et des fois, on dit, il y a beaucoup de variétés, les choses ne sont pas pareilles. Mais quand on parle de infiniment variées, ça veut dire que de la variété, il y en a à l'infini. Alors, ça dit, Éphésiens 3, 8 à 11, à moi qui suis le moindre de tous les saints. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le conseil, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Voyez-vous, ils disent que les dominations et les autorités, c'est des anges. Puis ils disent que c'est par l'Église qui montre à tous ces êtres-là sa sagesse infiniment variée. C'est parce que les anges regardent comment Dieu travaille, puis ils voient que c'est extrêmement varié. Et le texte nous dit, « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église, par nous, la sagesse infiniment variée de Dieu. » Romains 11, 33, moi c'est un verset que j'aime tellement. Les voix de Dieu qui parlent, il nous parle des voix de Dieu sont profondes, insondables et incompréhensibles. Romains 11, les versets 33-36, quand on étudie Romains, le moindre main, là, on voit que le livre est divisé en trois ou quatre parties. Et quand on arrive à Romains 11, de 33-36, autrement dit, c'est Paul qui prend conscience de l'œuvre du salut de Dieu pour l'humanité. Et là, ça, c'est sa conclusion et il est en émotion, il est en adoration devant Dieu. Voici qu'est-ce qu'il dit. « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » C'est un verset d'une profondeur, ça c'est, autrement dit, t'es en train de nous dire que tout dans Dieu, quand on parle d'insondabilité et d'incompréhensibilité, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rien comprendre. Ça veut dire qu'on ne peut pas rien comprendre de façon exhaustive jusqu'à quel point Dieu est sage et riche et science de Dieu. Quand on dit ses jugements, dans le grec, on parle de ses décrets. Quand on prend la peine d'aller fouiller un peu, là, ça veut dire que ses décrets, autrement dit, ce qu'il a décidé d'avance de ce qui se déroulerait dans le temps, ça dit que c'est insondable. Les décrets de Dieu sont insondables. Il nous arrive des choses dans nos vies, on se demande... C'est moi, les circonstances, c'est quelqu'un, un ami d'enfance qui me donne une Bible qui avait été donnée par un autre. Les circonstances. Moi, j'étais dans un état d'esprit, il me donne un petit nouveau testament. Dans ce temps-là, je n'étais pas trop... OK, moi, le prendre par politesse, dans mes poches. Mais après ça, le Seigneur s'est servi de ça pour m'amener à lui. Alors, c'est des choses extraordinaires. Alors, certains des élus de Dieu se souviennent avec une très grande précision des circonstances de leur conversion. Pas tout le monde, parce que j'ai déjà parlé à des gens, dire « Comment Satan t'est sauvé? Oh, sais-tu, je ne sais pas, tu as toujours été dans les églises, ça fait longtemps. » Mais il y en a qui ne sont pas capables de mettre une date précise et des circonstances très précises de leur salut. Puis, il y en a qui c'est très précis. Hein. Le 11 janvier, telle année, c'est clair comme l'eau de roche, là. Mais en tout cas, c'est pas toute la même chose pour tout le monde. Alors, d'autres qui ont été élevés par des parents chrétiens pieux ne peuvent pas dire avec précision le moment de leur conversion, bien que celle-ci soit bien réelle et authentique. Alors ça varie d'un individu à l'autre. Moi, je me souviens que c'était au mois de janvier 1979, puis il y avait eu une énorme tempête de neige dehors. Parce que je me souviens, j'avais été voir dehors. Puis c'est ce soir-là que le petit Nouveau Testament m'avait parlé beaucoup. Puis je sentais qu'il y avait quelque chose qui s'était passé dans mon cœur, vraiment, là, profondément. J'avais été voir dehors, il y avait de la neige, là. Tu sais, quand tu parles d'une grosse tempête d'hiver, là, moi, je me souviens que c'était au mois de janvier. Si je ne me trompe pas, il me semble que c'était le 10, mais en tout cas, je sais que c'était au mois de janvier 1979. Ça dit dans Luc, on sait également que le Seigneur a accordé sa grâce du salut à certains de ses élus, lorsque ceux-ci étaient tout près de la mort. Ça, c'est spécial, hein? Quelqu'un a vécu comme un païen tout le temps de sa vie, puis souvent, les personnes vivent très de façon âgée. Et là, Le Seigneur permet que soit qu'ils se souviennent d'un verset, ou soit qu'il y a un individu qui leur témoigne, ou soit une lecture, ou toutes sortes d'autres moyens que le Seigneur peut utiliser. Imaginez-vous ça avant de mourir. La grâce que ces gens-là ont eue. Ils s'en rendent pas nécessairement pleinement conscience. C'est juste quand ils doivent traverser, puis qu'ils prennent conscience de l'endroit où ils auraient pu aller pour l'éternité, et qu'ils prennent conscience de l'endroit où ils sont pour l'éternité, que là, ils doivent dire, waouh, l'échappée belle, c'est vrai. Alors, prenons quelques minutes pour apprécier la riche variété des moyens utilisés par le Seigneur pour amener ses élus à la conversion. Un des moyens, bien entendu, c'est les rencontres. Par exemple, on lit dans Actes 8, les versets 26 à 30, lorsque le ministre éthiopien, qui était un ministre très important, le ministre des Finances, c'est comme si ça avait été le ministre des Finances à l'époque de l'Éthiopie. L'Éthiopie à cette époque-là, puis aujourd'hui, l'Éthiopie aujourd'hui, c'est pauvre. Mais à l'époque, l'Éthiopie, c'était important. Et il était le ministre des Finances de l'Éthiopie. Et il était venu, il a rencontré l'évangéliste Philippe. Une rencontre. Tu sais, des fois dans la vie, on en rencontre-tu du monde ou on n'en rencontre pas du monde? Mais lui, il était dû pour rencontrer Philippe l'évangéliste. Et c'est là que lui, dans sa vie, le grand déclic s'est fait. Alors, on va lire le passage, Actes 8, 26 à 30. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut. Et entendit l'Éthiopien qui disait le prophète Ésaïe, il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et là, on sait qu'il y a eu une explication. Et c'est ça qui a fait en sorte que ce personnage-là est devenu chrétien. Il a été baptisé immédiatement après. Et bien sûr, quand il est retourné dans son pays, il a dû faire une œuvre d'évangélisation dans son pays. On ne sait pas son histoire, mais on sait que c'est la rencontre avec Philippe l'Éthiopien qui a fait en sorte qu'il est devenu un chrétien. On a un autre exemple de rencontre, le général syrien qui s'appelait Naaman avec le prophète Élisée. Alors ça dit 2 Rois, chapitre 5, verset 1 à 4. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, c'était comme un général. Un général de l'armée qui était malade, il avait la lèpre. Jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'est par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, Oh, si mon Seigneur était près du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître, La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Alors on sait que par le reste de l'histoire, ceux qui ont lu l'histoire, c'est qu'à un moment donné, il est allé au pays et le prophète lui a dit, Sauve-toi dans l'eau et fais telle affaire. Puis lui, il a dit, Voyons donc, ouais, s'il va me guérir en me sauçant dans l'eau, il dit, Venez un fleuve dans mon pays, pourquoi pas que je vais me retourner dans mon pays, je vais me sauver dans mon pays, pas venir ici. Fait que là, ils lui ont donné le conseil, fais ce que le prophète t'a dit. Et là, il est revenu à son bon sens, il a fait ce que le prophète lui a dit, et il est sorti de l'eau et sa lèpre était partie. Alors, qu'est-ce qu'il a fait qui était. Bien sûr, sa lèpre était partie, mais on sait le reste de l'histoire aussi qui disait qu'il ne voulait plus aller adorer les faux dieux de son roi. Alors, le texte laisse sous-entendre qu'il avait été né de nouveau là. En même temps qu'il avait disparu sa lèpre spirituelle était disparue en même temps. Un autre exemple de rencontre, alors on parle des moyens, celle de la Samaritaine avec le Seigneur Jésus au puits. Alors, à remarquer dans le texte, il y a un effet domino. Vous savez ce que c'est, un domino? Une pièce fait tomber l'autre et ça peut avoir, il peut en avoir 1 000, ils vont tous tomber. Alors, on voit ici un exemple. Le Seigneur se sert de la rencontre qu'il y a avec cette femme. Il l'amène au salut. Et ça l'a eu pour effet que beaucoup de personnes qui ont cru à cause de ça, l'effet domino. Et le Seigneur, bien sûr, savait que cette femme-là ferait en sorte qu'il y aurait des nouvelles personnes qui viendraient à lui. Alors, ça dit, comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? » Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et vous, ça a commencé. Il y a eu plein de... Alors, c'est une rencontre. Le Seigneur se sert souvent de rencontres. Moi, dans mon cas, c'était vraiment sur une rencontre. Rencontrer un ami qui avait des Nouveaux Testaments. Lui-même, aujourd'hui, il mène une vie de païen, chose oreille. Mais c'est lui qui m'a donné la Bible quand même. Alors, le Seigneur a des drôles de moyens des fois. Une autre rencontre, le geôlier, avec l'apôtre Paul, dans Actes 16, versets 26 à 31. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. À cette époque-là, tu étais directeur d'une prison. Si tu parlais des prisonniers qui étaient importants, c'était... Alors, il s'est dit, je suis aussi bien de le faire moi-même que de me le faire faire par eux autres. Alors, dans verset 28, « Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors, le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Quelle belle histoire, hein? Ce gardien de prison-là, c'est une rencontre parce que Paul était emprisonné qui était sauvé. Un autre, et ça va être la dernière pour les rencontres, Philémon, versets 10 à 16, Philémon 1. Alors, l'esclave Onésime. Alors, Onésime avait un esclave. Cet esclave-là, bonjour, il décide, moi, je me pousse, je suis tanné de servir d'esclave, je me pousse. À cette époque-là, si tu te poussais d'un esclave, d'un maître, c'était grave. C'était pas une petite offense. Alors, ça dit, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes. C'est Paul qui parle. Onésime, qui autrefois t'a été inutile, qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité. C'est justement ce qui est arrivé. Et dans le verset 16, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Alors, on a vu plusieurs exemples de rencontres, et on pourrait multiplier les exemples. Le deuxième moyen, c'est les remarques verbales. Proverbe 16, verset 25. Ça, c'est la... Je vous l'avais déjà raconté... La remarque que le père d'Arthur Pink, c'était un écrivain anglais qui a vécu jusqu'en fin des années 1800, qui est mort en 1956. C'était un écrivain de top niveau. Quand on dit top niveau, moi, tout ce que j'ai lu de lui m'ont béni pas à peu près. C'est un homme très fort. Il était déjà rendu dans son âge adulte et il était sur le bord de s'embarquer dans les sciences occultes avec des personnes qui venaient des Indes, l'anthroposophie qu'il appelait ça. Et il y avait une madame qui était en charge de ce mouvement-là, qu'elle avait très bien vu en lui un gros potentiel d'écriture. Donc, quand un mouvement, c'est important que tu aies des gens qui soient capables d'écrire pour convaincre les autres. Alors, un soir, il s'en va à une réunion de ça. Puis il rentre chez eux. Il avait été élevé chrétiennement, mais il s'était éloigné. Son père lui dit le verset suivant. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Il dit, j'ai monté en haut, t'as allé me coucher, je n'ai pas été capable de fermer l'œil de la nuit. Le verset lui roulait dans l'esprit comme un tambour. Et il dit que le lendemain matin, il est allé voir son père, il dit, papa, je lâche ça, je suis sauvé. Un verset. Alors, ne méprisons jamais la puissance d'un verset. Quand on évangélise, on est mieux de dire le plus de versets possible. C'est plus puissant que nos propres paroles. Alors, il y a deux autres remarques. Quand on dit des remarques verbales, donc c'est juste quelqu'un qui a dit un mot. J'ai deux autres histoires. William Perkins, c'est un puritain du 17e siècle, c'est devenu le plus grand des puritains. À l'époque, en Angleterre, il était tellement respecté des autres pasteurs puritains qu'il était, en quelque sorte, le pasteur des pasteurs. Ça, c'est William Perkins. On peut encore lire ses livres aujourd'hui. Ils sont tous disponibles. C'est d'une richesse presque incroyable. William Perkins, quand il était jeune, il avait un problème d'alcool. Et à un moment donné, dans les rues de Londres, il était impacté. Puis il y a une femme qui a vu ses enfants dehors, puis ses enfants, ils tournaient autour de William Perkins. Puis on dit, elle a dit à ses enfants, éloignez-vous de drunk Perkins. Autrement dit, éloignez-vous du saoulon Perkins. Lui, il dit que cette phrase-là, ça y a fait l'effet d'une masse. Et il est venu au Seigneur parce que quelqu'un lui a présenté l'Évangile, mais c'est cette remarque-là d'une femme qui lui a ouvert, préparé le cœur à recevoir l'Évangile. Un autre, John Bunyan, tout le monde connaît le voyage du pèlerin, John Bunyan, mais John Bunyan, quand il était jeune aussi, c'est un saoulon. Et lui aussi, il a été sauvé par une histoire similaire. Qui était sous, puis là, il y a quelqu'un qui a dit, ben regarde, Bunyan, j'espère que tu ne veux pas devenir comme un saoulon à Bunyan. Puis lui a entendu ça, puis ça a fait un effet similaire à William Perkins. Bizarre, hein? Qu'est-ce que le Seigneur peut utiliser? Des remarques verbales qui viennent te chercher jusqu'au tréfonds de l'âme. Mais ça, c'est le Seigneur qui permet que. Parce que ça aurait pu arriver qu'ils entendent ces phrases-là, puis ça leur passe par une oreille, puis ça sort par l'autre. Pourquoi que ça fait un effet si fort? Parce que le Seigneur voulait que ça soit fort. Autre chose, autre moyen que le Seigneur utilise, parfois, c'est les moqueries. Certains moqueurs ont été convertis lorsqu'ils tentaient de ridiculiser les prédications du grand évangéliste George Whitefield, qui a vécu de 1714 à 1770, durant le grand réveil. Il y a eu un grand réveil en Angleterre. Et il venait souvent aux États-Unis, il faisait un tour. Dans ce temps-là, c'était à cheval, là. Il faisait des grandes, grandes, grandes. Il allait dans plusieurs églises. Il était un prédicateur hors pair. On parle aujourd'hui dans les milieux anglophones, George Whitefield s'est considéré comme un des plus grands prédicateurs de tous les temps. Et George Whitefield, il y a eu des gens, des fois, quand il prêchait, dans ce temps-là, c'était souvent la prédication en plein air. Il faisait pas très souvent ça dans les églises, c'était plus en plein air. Des foules immenses se rassemblaient, 4 000-5 000 personnes, des fois plus que ça. Et apparemment, il y avait une voix terrible qui portait à des kilomètres. Il y avait une voix puissante. Et à un moment donné, il y a des jeunes, quand ils voyaient qu'il y avait un certain succès dans l'Évangile, ils se moquaient de lui. Ils tournaient autour de lui, puis ils faisaient des moqueries, puis il y en avait même des fois qui urinaient juste pour écœurer. Tu sais, c'était comme des comportements vraiment, là. Et à un moment donné, il y a eu un moqueur comme ça, que quand George Whitefield a dit un verset, le jeune a voulu se moquer et il a dit le verset lui-même. Et en le disant, le Seigneur a permis qu'il comprenne ce qu'il disait, qu'il comprenne le verset. Et il a été sauvé en se moquant d'un évangéliste. C'est-tu un moyen assez sage du Seigneur? Tiens, mon petit moqueur, tu ne te moqueras plus maintenant. Dans son livre « Des moyens inusités », alors la quatrième série de moyens, des inusités, ça veut dire des affaires qui n'arrivent pas souvent. Dans son livre « The Mystery of Providence », à la page 63, le puritain John Flavel raconte comment une personne du pays de Galles, au Royaume-Uni, fut convertie, alors qu'il était un moqueur et un ennemi de l'Évangile de Christ. Il alla au marché public pour s'acheter quelque chose à manger. Le marchand qui lui servit son achat l'enveloppa dans une feuille qu'il avait déchirée du catéchisme du puritain William Perkins. Voyez-vous, William Perkins avait été sauvé, il avait publié un catéchisme. Probablement que le boucher, ça n'avait pas grande importance à ses yeux parce qu'il déchirait les pages pour envelopper des affaires. Alors, arrivé chez lui, il découvrit le texte du catéchisme, il fut sauvé par ce moyen très inusité. Celle-là, c'est une personnelle que je vous raconte. Quand que moi et Lucie, on est allé prêcher pendant 50 ans, tous les vendredis soirs, au coin de la rue Dupont et je ne sais plus de la rue, Saint-Joseph, à Québec, dans Basseville, le coin où ce que les prostituées se tenaient. On allait là tous les vendredis soirs, on prêchait pendant une heure et demie. À un moment donné, un soir, après qu'on avait fini de prêcher, il y a une femme qui elle arrête à côté de nous autres, elle baisse sa fenêtre, elle nous donne une petite carte. Puis cette femme-là s'appelait Diane Gingras-Hudon. C'est une chrétienne de Québec. On l'a personnellement connue. Alors, elle s'était donné un ministère extrêmement actif de distribution de traités évangéliques dans les rues de Québec. C'est-à-dire des petits traités. Pas beaucoup, c'est juste quelques pages, mais on en donnait à tonnes, comme on dit dans la ville de Québec. Elle nous a raconté, c'est elle-même qui nous a raconté ça, là, qu'elle a reçu un téléphone par une personne qui était dans un état suicidaire, qui avait décidé d'en finir. Il s'était rendu dans un dépotoir pour en finir. Quand il est arrivé sur place, il a prié le Seigneur de se manifester à lui, s'il existait. Comment dire, Dieu Seigneur, si tu existes là, il est temps que tu fasses quelque chose là, parce que là, moi, je suis de bord. Alors, il jeta les yeux par terre et vit un traité qui avait été amené à cet endroit par la providence de Dieu. Il le lut, il était sauvé. Puis il a appelé Diane Gingras, puis il a dit. Mais elle a dit, comment ça se fait que comment ça se fait que j'avais un traité qui était rendu dans un dépotoir? J'en ai aucune idée. Mais le Seigneur a permis que ce jeune homme-là qui était suicidaire ait été sauvé par cela. Alors, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui et on terminera la leçon la semaine prochaine.